Alors, c'est un thème qui me tenait à cœur, intériorité et prière, j'ai intitulé ça. Dans les prières, il y a mille formes de prières, mais il y a des prières vocales, etc. Là, c'était quelque chose d'un petit peu différent. C'était plus, l'accent, c'était sur l'intériorité, et bien sûr, la prière a une grande part. Alors, ce matin, donc, si j'ai bien compris, frère Jean-Gabriel vous a fait méditer sur le Jésus perdu et retrouvé au temple. Là aussi, Marie, c'est notre modèle hein, pour l'intériorité. Elle est... Alors, quand Jésus est perdu et retrouvé au temple, mais auparavant, vous vous rappelez de l'Annonciation. Alors, quand l'ange lui dit, arrive, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Là, ça fait partie aussi de l'intériorité, de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Et puis après, on retrouve aussi cette même attitude de Marie après la naissance de Jésus. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Ça, c'est le chapitre 2, verset 19. Et puis, donc, il y a encore ce passage, donc, après quand Jésus est retrouvé au temple. Donc, c'est quelque chose de chronique, si vous me permettez l'expression. Chez Marie, elle ne lit pas les événements en surface. Elle les relie. Et alors, Benoît XVI avait très bien commenté ça en 2012. Voilà ce qu'il disait. Marie réfléchit, elle s'interroge sur la signification de cette salutation. Donc, ce n'est pas simplement la salutation, c'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie. Le thème grec utilisé dans l'Évangile pour définir cette réflexion, « dialogizeto », rappelle la racine du mot « dialogue ». Cela signifie que Marie entre dans un dialogue intime avec la parole de Dieu qui lui a été annoncée. Elle ne la considère pas de manière superficielle, mais elle s'arrête. Elle la laisse pénétrer dans son esprit et dans son cœur pour comprendre ce que le Seigneur veut d'elle, la signification de l'annonce. Et donc ça, c'est au moment de l'Annonciation. Et on retrouve cette même attitude de Marie au moment de la naissance de Jésus. Marie conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Alors là, le terme grec est « symbalon ». Nous pourrions dire qu'elle gardait ensemble, mettait ensemble dans son cœur tous les événements qui lui arrivaient. Elle plaçait chaque événement, chaque parole, chaque fait à l'intérieur d'un tout et le confrontait, le conservait, reconnaissant que tout vient de la volonté de Dieu. Marie ne s'arrête pas à une première compréhension superficielle de ce qui arrive dans sa vie, mais elle sait regarder en profondeur, elle se laisse interpeller par les événements, elle les élabore, les discerne. Voilà, donc je trouve que ça parle bien de l'intériorité de Marie, qui justement n'est pas en surface. Donc si vous voulez retrouver cette homélie de cette audience, je ne sais plus, de Benoît XVI, c'est le 19 décembre 2012. Voilà. Alors, j'ai pensé à un enseignement en trois parties. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire « s'intérioriser » Ça sera la première partie. La deuxième partie, c'est les dispositions générales pour accéder à l'intériorité. Et la troisième, ça serait « comment faire concrètement ?» Alors, on sera un peu plus concret dans la troisième partie. Je serai un peu plus concret. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que s'intérioriser, la première partie? Alors, je vais commencer par ce que c'est pas. Ce que n'est pas l'intériorisation. Et puis après, ce que c'est. Alors, s'intérioriser, c'est pas fermer les volets et couper tout contact avec l'extérieur. Parce que certaines personnes pensent quelquefois s'intérioriser, mais non. Ça peut être... elle ferme les volets, elle coupe le... Voilà, il n'y a plus d'abonnés au numéro. Elle se coupe des autres. L'intériorité, ce n'est pas se couper des autres. Au contraire, c'est entrer dans une relation plus profonde avec Dieu. Donc l'intériorité, c'est pas se couper des autres. Alors bien sûr, ça peut être de couper son portable à un certain moment, ou ça peut être de... Mais l'intériorité, le but, c'est pas de couper la relation. Au contraire, l'intériorité est au service de la relation. Le summum, c'est pas l'intériorité. Le summum, c'est la relation avec Dieu et avec les autres. Donc, je pense que c'est important. L'intériorité, c'est pas couper les relations avec les autres. Alors, à certains moments, ça peut être un temps de silence, bien sûr, et puis pour justement aller plus profond. Mais c'est finalisé par la relation, l'intériorité. C'est pas, elle va pas contre la relation. Et même quand vous vous mettez en oraison, l'oraison, c'est pas s'enfermer dans son monde, puis l'extérieur, peu importe. Un ermite, il vaut mieux qu'il change de métier, entre guillemets, s'il ne prie pas pour les gens. Sinon, c'est de l'égoïsme à l'état pur. Enfin, je veux dire, l'intérêt de l'intériorité, ce n'est pas de se regarder le nombril. Ce n'est pas ça, l'intériorité. Donc ça, je pense que c'est important de... c'est comme le silence, j'en parlerai un petit peu après, mais le silence, c'est... Paul, si c'est une belle parole pour dire, le silence, c'est le cœur qui écoute. Le silence, c'est pas vouloir avoir la paix et que tout le monde me laisse la paix, que je sois tranquille dans mon trou. C'est pas ça, le silence. Ça, c'est une apparence de silence, mais, ou un silence très matériel, mais c'est pas ça, le silence que nous sommes appelés à vivre. Bon. Alors, donc, c'est pas l'intériorité, c'est pas fermer les volets. Deuxième chose, l'intériorité, c'est pas fuir non plus mes émotions et la réalité. Quelquefois, on veut s'intérioriser parce que la réalité est trop dure. Et du coup, là aussi, on veut quelque part se... Je pense que vous êtes normal. On a des émotions qui sont agréables ou moins agréables. Hein, c'est... Mais l'intériorité, c'est pas se couper de ses émotions. Parce que nos émotions, elles nous sont données. Et c'est pas... Elles sont pas mauvaises en tant que telles, les émotions. Elles veulent dire quelque chose. Justement, ça peut être de faire comme Marie. Qu'est-ce que veut dire ces émotions? Mais c'est pas de se couper de ses émotions. Parce que sinon, on s'amputerait d'une partie de nous-mêmes. C'est pas le but. L'intériorité, c'est pas juste je garde la tête et le reste du corps disparaît. C'est pas ça, l'intériorité. Hein, l'intériorité, c'est vraiment, c'est aller plus profond que les émotions quelque part et comprendre ce qu'elles, parce qu'on a une intelligence, on peut, et du coup, je trouve que c'est intéressant. Sinon, on se plonge dans une forme de narcissisme où on, mais non, l'intériorité, ce n'est pas le narcissisme. Sinon, on ne parle pas d'intériorité. Ce n'est pas ce que nous invite, ce à quoi nous invite Jésus. Alors, encore une fois, à certains moments, c'est plus facile de plonger dans la prière, dans l'oraison, si on n'est pas complètement énervé. C'est le père Caffarel qui disait, il évitait de lire son courrier avant d'aller à l'oraison. De fait, je pense que quelquefois, il y a des choses, il vaut mieux pas les lire avant de... Il disait, oh là là, ça m'a mis en furie, c'était comme une casserole, là, il y a le couvercle qui sautait, parce qu'il était énervé, donc pour faire oraison, c'est plus compliqué à ce moment-là. Donc, bien sûr qu'à certains moments, c'est se mettre dans des conditions qui font qu'on n'est pas complètement énervé, sinon c'est compliqué de se mettre en oraison, mais... Mais au bout du compte, c'est pas fuir ses émotions. L'intériorité, c'est pas non plus la, il faut pas la confondre avec la méditation de pleine conscience. Alors, je suis pas du tout contre la méditation de pleine conscience, mais c'est pas l'oraison, la méditation de pleine conscience. C'est être présent à soi, c'est d'être attentif au moment présent, voilà, c'est, je pense que ça peut être une étape comme un sas, pour entrer en oraison, mais ce n'est pas l'oraison elle-même, hein, la méditation de pleine conscience. Ça peut nous aider à nous concentrer, à, voilà. Elle est bonne en tant que telle, hein, mais c'est pas l'oraison elle-même. Parce que dans l'oraison, on s'adresse à Dieu. On peut méditer en pleine conscience, comme on le dit, ou méditation, comme on dit, présence attentive, certains l'appellent. Mais c'est pas la prière, ça. Donc ça peut être un sas avant la prière, un sas bénéfique avant la prière, mais le but de la prière, c'est de rencontrer Dieu quand même. C'est ça l'essentiel. Et c'est important parce que de voir que la finalité encore, c'est la relation avec Dieu. Et la finalité, c'est pas d'être en paix. La finalité, c'est d'être en relation avec Dieu. Dans notre monde, quand même, quelquefois, on peut chercher beaucoup, être plus dans le développement personnel, etc. Du coup, c'est pas mauvais le développement personnel, mais il faut pas oublier que c'est qu'un moyen, c'est pas une finalité. La finalité, c'est la relation avec Dieu. Donc, il faut remettre les choses juste à leur place, c'est tout. Voilà. Alors, maintenant, après ce que c'était pas, qu'est-ce que c'est? Là aussi, je vais prendre quelques points. L'intériorité, c'est d'abord se situer au niveau du cœur. Le cœur, dans la Bible, ce n'est pas des états d'âme sentimentaux. C'est beaucoup plus profond que ça. Hein. Alors, ça contient les sentiments, mais ça contient aussi les souvenirs, les idées, les projets, les décisions. Alors, je pourrais vous donner plein de citations, mais Dieu a donné aux hommes un cœur pour penser. Hein, dans notre civilisation, le cœur, ben, voilà, on dessine un cœur sur un mur parce qu'on aime beaucoup quelqu'un, mais dans la Bible, le cœur, c'est plus profond. Ça comporte les sentiments, mais ça va au-delà. Le cœur, c'est le centre caché de la personne. Il n'y a que Dieu qui connaît notre cœur. C'est le lieu, c'est le fond de l'être. C'est comme ça qu'on parle le catéchisme dans l'Église catholique. Je vous le cite. Le cœur est la demeure où je suis, où j'habite, selon l'expression sémitique ou biblique, où je descends. Il est notre centre caché, insaisissable par notre raison et par autrui. Seul l'Esprit de Dieu peut le sonder et le connaître. Il est le lieu de la décision au plus profond de nos tendances psychiques. Il est le lieu de la vérité, là où nous choisissons la vie ou la mort. Il est le lieu de la rencontre, puisqu'à l'image de Dieu, nous vivons en relation. Il est le lieu de l'alliance. Donc c'est vraiment le fond de notre être, le cœur. C'est intéressant, c'est vraiment là où se prennent les décisions. D'une autre manière, vous pouvez faire l'expérience à certains moments que votre cœur se ferme ou s'ouvre. Certaines fois. Mais alors, il y a des choses que certaines fois ça se situe plus au niveau de la sensibilité, mais il y a un moment, s'il y a une part de décision, ça, on est vraiment au niveau du cœur, comme on parle de la Bible. Et le cœur, justement, se dévoile souvent dans des situations d'adversité. Quand, dans des moments difficiles, bon, on voit ce que la personne a dans le cœur. Dans Marie. Marie, au moment de la Jésus perdu et retrouvé au temple, elle ne s'est pas énervée en disant, je ne sais pas, elle n'a pas piqué une grosse colère, elle n'a pas compris de fait, avant et après, plus tard sans doute, mais voilà, mais du coup, voilà, c'est là aussi, on pourrait appliquer cette parole de Saint Pierre. Vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. C'est là où vous êtes, où se situe votre cœur. Voilà. Alors donc, l'intériorité, c'est situé au niveau du cœur. L'intériorité, c'est aussi aller vers la profondeur, vers la contemplation. Vous vous rappelez du titre de la lettre que Jean-Paul II a écrite pour entrer dans le nouveau millénaire. Vous préférez en latin, peut-être. Duc in altum. C'est dans Saint-Luc, au chapitre 5. Je ne sais pas si j'ai la citation ici, mais peu importe. Oui, chapitre 5, verset 4. C'est au moment de la pêche miraculeuse, au début de Saint-Luc. Hein, donc, ils n'avaient rien. Et c'est Jésus qui invite ses apôtres à aller en eau profonde, dukinaltum. Mais du coup, dans cette lettre, Jean-Paul II, qui était quand même plutôt vers la fin de sa vie, encourageait beaucoup à aller aussi dans la profondeur aussi de nous-mêmes. Hein, c'est au niveau du cœur, justement. Et en encourageant beaucoup la contemplation. Là aussi, Sainte Thérèse, vous connaissez peut-être un peu Thérèse d'Avila, donc elle parle du château intérieur, et il y a différentes demeures, et alors on va jusqu'au plus intime. S'intérioriser, c'est s'ouvrir à la présence de Dieu par la foi. Alors c'est ce qu'on fait au début de l'oraison, il y a un acte de foi, et puis parce qu'on sait que Dieu est là. Il y a Saint Jean, par exemple, qui « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. » Alors Jésus nous l'a promis, donc je sais que Jésus est là. Et depuis mon baptême en particulier, « Ne savez-vous pas que » c'est Saint Paul qui dit ça, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alors c'est par la foi que je le sais, je le ressens pas forcément. Bien souvent, on ne ressent pas grand-chose. Mais je sais par la foi que Dieu est là. Est-ce que certaines connaissent la prière que le Père Caffarel aimait nous faire lire ? Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, laisse-moi te rejoindre dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, je t'adore, mon Dieu, dans le fond de mon cœur. Enfin, et puis ça continue. Et donc c'est une prière qui l'encourageait à dire justement pour s'intérioriser. Donc la première partie c'est « Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur », ça c'est un acte de foi, et alors je m'offre à ton amour dans le fond de mon cœur. Et... Pardon ?
Je veux ce que tu veux.
Ah oui, dans le fond de mon cœur, exactement. Ça c'est la septième. Voilà. Donc, s'intérioriser aussi, c'est aussi une chose importante là, c'est que c'est passer par Jésus pour rejoindre un Dieu transcendant, pour prendre des grands mots, et je pense que c'est Sainte Thérèse d'Avila qui peut nous aider, hein, donc c'est une maîtresse en oraison, donc on peut dire pour la vie intérieure, mais Thérèse d'Avila, c'est quand même, elle est docteur de l'Église aussi pour... Mais justement, à un certain moment, Thérèse d'Avila, certains lui disaient « Non, il ne faut pas passer par Jésus, c'est un peu trop matériel, entre guillemets, hein, Jésus qui est vrai Dieu et vrai homme. » Et du coup, à un certain moment, elle était tentée de s'éloigner de l'humanité du Christ. Et justement, son expérience, c'était juste parce qu'on lui disait que c'était un obstacle pour aller à Dieu, qui est immatériel. Et à ce moment-là, elle a fait l'expérience que vraiment, non, Jésus, c'est vraiment le chemin, hein, c'est vraiment la porte par laquelle on accède à Dieu. Mais il y a un paradoxe aussi pour s'intérioriser, on passe par Jésus qui est vrai Dieu et vrai homme. Hein, on est la religion de l'incarnation. Le pape François, il revient, il avait fait toute une catéchèse en avril 2021 sur la méditation. Et la grande porte à travers laquelle passe la prière d'un baptisé, nous le rappelons encore une fois, est Jésus-Christ. La prière du chrétien est avant tout une rencontre avec l'autre, mais avec un A majuscule. La rencontre transcendante avec Dieu, mais ça se fait à travers Jésus. Je pense que c'est bien de l'avoir bien à l'esprit. Voilà, alors, donc ça c'est la fin de la première partie, là. Ce que n'est pas et ce qu'est l'intériorité. Alors, dans la deuxième partie, je vais énumérer, alors j'en ai trouvé 10, bon, je ne sais pas, c'est un peu arbitraire peut-être, mais 10 dispositions qui nous permettent d'accéder à cette intériorité. Donc, ça nous permet de préciser un peu les choses. De... Parce qu'au-delà du moment où je veux vraiment rencontrer Dieu, ben, il y a quelques dispositions plus larges dans notre vie qui font qu'on est ouvert ou non à Dieu. Alors la première, c'est travailler à l'ouverture du cœur. Ça rejoint ce que j'ai dit au début, hein, c'est pas fermer les volets, s'intérioriser, c'est au contraire ouvrir son cœur. Du coup, ça veut dire assez concrètement aussi, quand on est enfermé dans nos soucis, nos projets, nos désirs, nos peurs, on a du mal à accéder à Dieu. Donc il y a besoin, c'est Eti Ilsum qui dit « Il y a en moi un puits très profond et dans ce puits il y a Dieu. Parfois je parviens à l'atteindre. » Mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors, il faut le remettre au jour. Alors, c'est assez imagé aussi. Mais voilà, il faut cette ouverture pour pouvoir avoir accès à... Oui, je pense que c'est là vraiment une des qualités fondamentales pour pouvoir entrer dans la prière. Et sachant que vous savez bien que notre cœur n'a qu'une porte, hein, et pour l'amour de Dieu et du prochain, si on est fermé à notre prochain, ben ça ferme en même temps la porte vis-à-vis de Dieu. Du coup, si notre cœur est volontairement, alors qu'on ait un peu de mal avec quelqu'un, ça nous arrive, je pense, mais autre chose est d'avoir un peu de mal, autre chose est de fermer son cœur. Et quand le cœur est complètement fermé à quelqu'un, ben, c'est compliqué de prier. C'est compliqué parce que notre cœur, il n'a qu'une porte. À l'amour de Dieu et du prochain, c'est un commandement. Alors ça, c'était la première chose, la première disposition. Une deuxième disposition, c'est l'humilité. Bon, on fait ce qu'on peut, hein, mais... Mais ça, on le comprend assez bien, parce que si on se met dans une position un petit peu arrogante ou supérieure, ben, on n'a pas accès à Dieu. Il y a des versets qui reviennent assez souvent. Alors, il parle de la grâce, mais c'est plus large que ça. Vous le trouvez en Saint Pierre, par exemple. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Attendez que je vous retrouve le passage pour que vous croyiez. Oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Mais ça, vous le retrouvez, cette même citation, dans Saint Jacques, dans les Proverbes. Bon, c'est quelque chose qui revient constamment dans la parole de Dieu. Si on a une posture un peu hautaine et tout ça, on est... L'intériorité sera compliquée, parce que l'intériorité, justement, c'est comporte, enfin, pour accéder à Dieu, on pourrait dire, il faut passer par la porte de l'humilité. C'est le psaume des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Donc, on voit, il ne surplombe pas le bon Dieu, en quelque sorte, mais c'est des profondeurs, je crie vers toi. Ça va de pair avec l'enfance spirituelle. Voilà. Après, une deuxième disposition, je pense, qui pour l'intériorité, c'est d'acquérir une certaine liberté par rapport au regard des autres. Quand on vit trop sous le regard des autres, bon, on est humain, hein, donc c'est pas facile. On ne peut pas faire abstraction comme ça du regard des autres, mais en même temps, on a besoin de prendre un peu de liberté, de se libérer un petit peu, de ne pas être emprisonné par le regard des autres. Alors pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Sinon, on s'enferme un peu dans un personnage, hein, puisqu'on veut correspondre au désir des autres, où on a peur de se faire rejeter. Ou... Voilà. C'est saint Paul qui dit « Si je voulais encore plaire à des hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. » Du coup, c'est aussi, ça nous permet d'accéder à ce qu'on est vraiment. Parce que tant qu'on est sous le regard des autres, on n'est pas vraiment soi-même. On joue quand même un peu un personnage pour, voilà, pour pas décevoir les autres. Mais justement, l'intériorité, c'est aussi, au bout du compte, être vraiment soi-même, sans avoir à se cacher. C'est saint Paul encore qui dit ça à un autre endroit, aux Corinthiens. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Mon juge, c'est le Seigneur. Du coup, il est vraiment devant le Seigneur et non pas devant le regard des autres. Ça, c'est un autre ingrédient, on pourrait dire, pour s'intérioriser, c'est justement pas être comme retenu par le regard des autres. Un quatrième ingrédient, ce serait d'apprendre à faire silence. Comme chacun sait, donc, le silence, c'est pas d'avoir une absence de bruit, en tout cas le silence tel qu'on en parle maintenant. C'est plutôt une disposition de l'âme. C'est comme disait Paul VI, le silence, c'est un cœur qui écoute. C'est un silence d'ouverture, pas un silence de fermeture. Parce qu'on voit bien, quand on parle du silence, certains, ils veulent surtout la paix, qu'il n'y ait plus de gens qui causent sous leurs fenêtres, ce qui peut se comprendre aussi. Mais le silence qu'on recherche dans la vie spirituelle, c'est pas d'abord ça. Alors, bien sûr, on est bien placé pour parler, nous qui sommes à la campagne, on n'est pas trop dérangés. Sauf l'âne qui braie, mais en dehors de ça, non, on n'est pas trop dérangés. Mais c'est pas défendu d'être dans un lieu plutôt silencieux, bien entendu. Mais il y a des personnes qui, peut-être, peuvent être dans des lieux silencieux, mais qui ne sont pas en silence pour autant. Et des personnes qui vivent en ville. Je pense aux sœurs de Mère Teresa qui sont dans des endroits quelquefois assez bruyants, mais qui adorent dans ce contexte bruyant et tout ça, et qui vivent un vrai silence. Il y a des phrases, je vous cite une phrase, alors c'est Habacuc. Le Seigneur réside dans son temple saint, silence devant lui, terre entière. Et il y a dans ce silence, il y a une manière de prendre conscience de la grandeur de Dieu, qu'on n'est pas grand-chose devant lui. Et Job, vers la fin du livre, dit: Moi qui suis si peu de choses, que pourrais-je te répliquer? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai plus rien. Donc, le silence va de pair avec l'adoration à ce moment-là. Ce silence, c'est aussi ce qui nous permet de rentrer en nous-mêmes. Vous connaissez tous la parabole du fils prodigue. Donc, à un certain moment, alors il y a des traductions qui réfléchit, mais d'autres traductions un peu plus proches du grec, c'est il rentre en lui-même. Et certaines fois, on préfère ne pas avoir trop de silence. Parce que quand on a des choses à se reprocher, c'est pas confortable le silence. Quelquefois, il y a des gens qui veulent venir faire une retraite en silence. Alors, on pourrait en proposer davantage ici, ça c'est sûr. Mais en même temps, on leur demande s'ils en ont déjà fait. Parce qu'ils s'imaginent passer 5 jours en silence comme ça, mais ils ne se rendent pas compte. S'ils l'ont jamais fait, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Parce qu'on se retrouve. C'est pas que des choses agréables qui nous remontent à l'esprit quand on est en silence. Il y a un mot, c'est les logismoi, c'est les pères de l'Église qui parlent de toutes ces pensées-là qui nous. Vous, bien sûr, vous n'avez que des pensées bienveillantes qui vous viennent à l'esprit. Mais pour les pauvres pécheurs, ben, on n'a pas que des pensées bienveillantes. On ne peut pas déconnecter comme ça les pensées. Vous pouvez déconnecter votre portable, oui. Mais les pensées dans votre esprit, c'est plus compliqué de déconnecter, hein. Et là aussi, le silence, alors peut-être un petit mot sur les distractions. Il ne suffit pas d'aller à l'oratoire pour être en prière. Parce qu'il y a des choses qui vous reviennent, hein, même si vous êtes à l'oratoire. Mais alors, du coup, vous connaissez, dans le catéchisme, il y a une petite note à propos des distractions. Je vous lis le catéchisme. Une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés. Et cette prise de conscience humble devant le Seigneur doit réveiller notre amour de préférence pour lui, en lui offrant résolument notre cœur pour qu'il le purifie. Là se situe le combat, le choix du maître à servir. Donc voilà. Et du coup, les distractions sont utiles pour ça. Parce que les distractions, elles disent quelque chose. Alors, il y a des distractions qui reviennent pas souvent, mais quand c'est une chose qui... Alors là, le catéchisme parle de choses auxquelles nous sommes attachés, mais ça peut être aussi des choses qui nous tourmentent, qui nous font peur, ou tout ça. Du coup, si ça revient souvent, ben, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Du coup, on est comme avec la distraction dans la prière, pris en flagrant délit. Pourquoi tu penses tant à telle chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? C'est intéressant, parce qu'on apprend à se connaître. Ça, on peut se voiler la face quand on est dans l'activité, tout ça. Quand on est en silence, c'est plus compliqué de se voiler la face. Benoît XVI, en 2012 aussi, avait fait un message un petit peu original pour la journée des communications sociales. Il avait parlé du silence. Et voilà ce qu'il dit. C'est du 20 mai 2012, si vous voulez retrouver son texte. C'est très bien. Le silence fait partie intégrante de la communication. Et sans lui, sans le silence donc, aucune parole riche de sens ne peut exister. Dans le silence, nous écoutons et nous nous connaissons mieux nous-mêmes. Dans le silence, la pensée naît et s'approfondit. Nous comprenons avec une plus grande clarté ce que nous voulons dire ou ce que nous attendons de l'autre. Nous choisissons comment nous exprimer. Se taire permet à l'autre personne de parler, de s'exprimer elle-même et à nous de ne pas rester, sans une utile confrontation, seulement attachés à nos paroles ou à nos idées. Ainsi s'ouvre un espace d'écoute mutuelle et une relation humaine plus profonde devient possible. Voilà. Je lis pas tout le passage, mais voilà, le silence qui est pour accéder à l'intériorité, pour ne pas être en superficie. On voit bien combien c'est important. On le voit bien dans les dialogues. Quelquefois, c'est vraiment un dialogue de sourds. Tout le monde parle, mais on n'écoute pas. Là. Chacun repart avec ses idées. On est bien avancé. Justement, le silence, c'est ce qui nous permet d'accueillir et peut-être de bouger un peu, de voir comment, de s'intérioriser. Autre ingrédient toujours, c'est se donner le temps. Voilà ce que dit le pape François. Nous ne sommes pas faits pour courir sans cesse. Nous possédons une vie intérieure qui ne peut pas être toujours piétinée. Méditer est donc un besoin de tous. Méditer, pour ainsi dire, serait comme s'arrêter et reprendre son souffle dans la vie. On a vraiment besoin de s'arrêter. Benoît XVI encore, c'était à l'occasion de la Saint-Bernard en 2006, il parlait d'un livre de Saint-Bernard qui s'appelle « Le Déconsidérationné », c'était un moine de Saint-Bernard qui était devenu pape. Donc, Saint-Bernard pouvait s'adresser à lui de manière... Et dans ce livre, je vous cite Benoît XVI, « Dans ce livre très personnel, le thème dominant est l'importance du recueillement intérieur. » Et il le dit au pape. « un élément essentiel de la piété. Il est nécessaire, observe le saint, de se préserver des dangers d'une activité excessive, quelle que soit la situation ou la charge que l'on occupe. Car, dit-il au pape de l'époque et à tous les papes, et à nous tous, les nombreuses occupations conduisent souvent à la dureté de cœur. Elles ne font que tourmenter l'esprit, épuiser le cœur et faire perdre la grâce. Voilà. Tout ça pour dire que l'image qui me parle, en tout cas, c'est quand il y a trop d'activité, c'est comme il y a une force centrifuge. On est un peu projeté à l'extérieur de nous-mêmes. Et de temps en temps, on a besoin justement de s'arrêter pour rentrer en soi-même. Mais plus il y a d'activité, quelquefois, alors après, c'est à chacun de voir. Hein, on ne gère pas forcément les activités comme on le voudrait. Et puis après, ça dépend. Il y a aussi la manière de les vivre. On peut avoir pas mal d'activités et les vivre. Mais du coup, de rester attentif, de se préserver autant que faire se peut, des moments où on peut se recentrer, on pourrait dire, se donner le temps à certains moments. C'est pas uniquement les activités excessives, c'est la manière de les vivre. Parce que certaines fois, dans une activité, on peut aussi se ressourcer. C'est là que je voudrais pas être trop manichéen, en quelque sorte, mais dans certaines activités, il y a la manière de les vivre où cette activité ne nous épuise pas. Mais au contraire, nos ressources. On voit bien qu'il y a certaines activités qui, d'un certain côté, peuvent peut-être nous fatiguer physiquement, mais d'un autre côté, ça, c'est aussi un ressourcement. À ce moment-là, c'est un peu différent. Sixième, adhérer à la volonté de Dieu. Toujours l'intériorité, c'est le but de l'intériorité, c'est cette relation avec Dieu. Donc, si mon désir, c'est d'être accordé à la volonté de Dieu, ce sera quand même beaucoup plus facile d'être intériorisé. En revanche, si je suis trop centré sur moi-même et si je suis pris dans mon projet, mais fermé à ce que Dieu peut me suggérer, là, j'aurai du mal à vivre une vraie intériorité. Une vraie intériorité, encore une fois, ça suppose cette ouverture à Dieu, on en a déjà parlé, mais et à sa volonté. Alors, quatre petits points encore. C'est l'examen de conscience qui peut nous aider justement. Ça suppose de prendre un petit peu de temps pour faire son examen de conscience, parce que c'est notre conscience, c'est notre sanctuaire le plus intime aussi. Et du coup, de voir où on en est. Parce que c'est vrai que dans le mouvement, on peut tromper notre conscience. Alors c'est Jérémie qui nous dit ça au chapitre 6, verset 16. « Arrêtez-vous en chemin et voyez, interrogez les sentiers de toujours. Où donc est le chemin du bien ? Suivez-le et trouvez pour vous-même le repos. » Huitième point, le jeûne. Alors, ça peut être quelque chose qui nous aide. Alors, au-delà du jeûne, c'est aussi certaines fois de mettre une petite distance avec tous nos désirs, etc., les plaisirs, etc. De retrouver une certaine liberté aussi par rapport à tout ce qui nous attire, ce qui nous... Neuvième point, pratiquer la charité. Encore une fois, l'intériorité, la première chose de l'intériorité, c'est cette ouverture, cette relation avec Dieu et les autres. Donc, si je ne cultive pas cette charité, mon intériorité, elle ne sera pas très juste. Elle peut être un peu narcissique. Tandis que la charité, elle corrige justement pour que cette intériorité soit vraiment une intériorité d'ouverture à Dieu et aux autres. Puis dixième point, là, pour c'est de recourir à un accompagnement spirituel. Quelquefois, justement, pour discerner aussi les bonnes manières de s'intérioriser ou des manières ambiguës. Donc, d'avoir un regard extérieur, ça peut nous aider. Voilà, ça, c'était la deuxième partie. La deuxième partie, les dispositions générales pour accéder à l'intériorité. Et maintenant, dernière partie, quelques indications plus concrètes, grosso modo, pour faire oraison. C'est un lieu particulier d'intériorité, l'oraison. Donc, alors j'en ai déjà un tout petit peu parlé quand on a parlé de la prière chez Saint François de Sales, mais Saint François de Sales était très attaché à l'oraison. C'est pas fortuit parce que, en fait, pour lui, c'est un lieu où on est particulièrement uni à Dieu. Alors, une petite phrase de Saint François de Sales qui, justement, n'est pas esclave des méthodes. Alors, il y a des méthodes qui peuvent nous aider, nous guider, mais après, il faut se recentrer sur l'essentiel. Et voilà ce que dit Saint François de Sales. Il n'y a qu'une seule chose nécessaire pour bien faire l'oraison, qui est d'avoir notre Seigneur entre nos bras. Cela étant, elle est toujours bien faite de quelque façon que nous nous y prenions. Donc, c'est cette intériorité, mais là, on voit encore l'intériorité qui nous conduit à une communion avec le Seigneur. Alors, pour l'oraison, le contexte d'abord, c'est des choses assez concrètes, mais c'est vrai que si on peut avoir un lieu calme, c'est quand même mieux, ou un lieu favorable. J'ai eu un certain nombre de bons échos de notre nouvel oratoire. Bon, c'est quand même assez calme. Mais c'est aussi, et quelqu'un m'a dit, ah oui, c'est un peu englobant, on est un peu, voilà, on se sent un peu protégé quelque part dans cet espace pour faire oraison. Bon, après, chacun, on a nos besoins différents, et puis, bon, il est beau, hein. Elles sont belles, les icônes, quand même. Mais voilà. Et alors, du coup, d'être dans un lieu, de choisir un lieu, je pense qu'on n'est pas des purs esprits, donc c'est important de choisir un lieu qui nous convienne, autant que c'est possible. Le but, c'est de faire oraison, mais si on peut trouver un lieu qui nous va bien, tant mieux. Après, il y a des choses qui peuvent nous aider, d'avoir une belle icône, une belle croix, une bougie ou des choses comme ça. C'est des choses qui nous aident. Il y a des moments dans la journée qui sont plus faciles que d'autres. Alors ça dépend un peu des personnes, mais le matin, c'est bien. C'est possible. Aussi de fixer la durée de l'oraison à l'avance, de dire mettons un quart d'heure, une demi-heure, trois heures, ça je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais et puis de s'y tenir. Ça, c'est le catéchisme qui nous dit: on ne fait pas oraison quand on a le temps, on prend le temps d'être pour le Seigneur avec la ferme détermination de ne pas le lui reprendre en cours de route, quelles que soient les épreuves et la sécheresse de la rencontre. Ça, c'est plutôt le contexte. Voilà. Après, le commencement de l'oraison, c'est de se mettre en présence de Dieu. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, cet acte de foi à poser. Je crois, Seigneur, que tu es là. Hein, tu as dit, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Saint François de Sales aussi, ça on avait vu ça un petit peu, de penser que Dieu est présent partout, qu'il est présent dans mon cœur, de se mettre sous le regard de Jésus, sachant que Jésus nous regarde, de s'imaginer que, parce que c'est la vérité, que Jésus est proche de nous. Alors ça, c'est des choses qui peuvent nous aider à entrer dans la prière. Parce que sinon, on risque de, voilà, on prend nos textes pour méditer, mais la première chose, c'est le père Caparel parlait beaucoup de cette relation je-tu, hein, que ça soit pas, on prie comme ça, on est dans nos pensées. Mais la prière, c'est pas être dans ses pensées, c'est être avec Jésus, c'est pas la même chose. Alors, bien sûr, on pense aussi dans la prière, mais alors on peut faire des gestes, on peut se prosterner, on peut, enfin, après, chacun voit. On peut prendre des prières toutes faites pour démarrer. Alveni, Creator, ou je ne sais pas ce que vous voulez. Voilà ce que dit encore le catéchisme. L'entrée en oraison est analogue à celle de la liturgie eucharistique. Rassembler le cœur, recueillir tout notre être sous la mouvance de l'Esprit Saint, habiter la demeure du Seigneur que nous sommes, éveiller la foi pour entrer en la présence de celui qui nous attend, faire tomber nos masques et retourner notre cœur vers le Seigneur qui nous aime, afin de nous remettre à lui comme une offrande à purifier et à transformer. Voilà, et puis cette décision de « voilà, je te donne ce temps, Seigneur. Je te laisse faire. » Et puis invoquer l'Esprit Saint, parce que sans l'Esprit Saint, on ne peut pas aller bien loin. Alors ça, c'est le commencement de l'oraison. Donc le contexte, le commencement, maintenant le corps de l'oraison. Saint François de Sales disait qu'il y avait trois manières de faire oraison. Alors, il y en a une, c'est plus par l'imagination, il disait. On l'a vu rapidement, mais voilà. Donc, on se représente un peu le lieu. Hein. Saint Ignace Loyola se représentait la situation de la scène de l'Évangile. Donc, faire appel à notre imagination. Ça peut nous aider, ça peut canaliser notre imagination. Il vaut mieux l'avoir pour nous que contre nous. Donc, ça peut être une première manière. Une autre, c'est plus au niveau de l'intelligence. Alors voilà ce que disait Saint François de Sales, c'est nous représenter les vertus que notre Seigneur a pratiquées, son humilité, sa patience, sa douceur, sa charité. Quelque part être dans l'admiration, mais on voit que c'est plus notre intelligence qui travaille. Et la troisième manière, c'est de nous tenir simplement en la présence de Dieu. Mais, il ajoute, cette manière d'oraison est plus sujette à distraction que celle de la considération. Voilà, alors, peu importe, l'important, c'est d'être avec le bon Dieu. Alors, très concrètement, vous pouvez prendre une page de la parole de Dieu. Ce qui est important, je pense, pour l'oraison, c'est de la préparer avant. Alors, je ne dis pas de préparer pendant 2 heures, mais ne serait-ce que de savoir sur quel évangile vous allez faire oraison. Parce que si, au moment de votre oraison, tiens, finalement, qu'est-ce que je... Non, c'est bien d'avoir, de savoir un petit peu, et de... Voilà, on rentre dans la prière, on a déjà le texte sous les yeux, et puis après, on ne guide pas vraiment les choses dans l'oraison, on essaie de se rendre disponible à Dieu.
Est-ce que chaque pièce est une sorte
d'oraison ? Oui, après, je ne ferai pas des distinctions trop... Le chapelet peut être une forme d'oraison si on médite vraiment les mystères et si on est... c'est un petit peu différent parce que c'est une prière vocale en même temps, le chapelet. Mais bon, si ça vous aide à prier, bon, peu importe, enfin, je ne sais pas. Mais l'oraison... C'est pas une prière vocale. L'oraison en tant que telle, c'est pas une prière vocale. Mais le but ultime, c'est d'être avec Dieu. Donc, si vous êtes plus avec Dieu en disant votre chapelet, ben dites votre chapelet, et puis, moi, ça me gêne pas, hein. Mais c'est, l'oraison, à certains moments, l'oraison, justement, c'est cette disponibilité. Quelquefois, c'est très sec, mais vous dites à Dieu, ben, voilà, travaille en moi, je ne sais pas. Tandis que le chapelet, ben, vous comptez quand même. Enfin, vous pouvez en dire 30 au lieu de 10. Hein. Il n'y a pas de péché à ça. Mais c'est un petit peu différent comme forme de prière, mais la finalité, c'est, au bout du compte, c'est d'être avec le bon Dieu. Hein. Mais dans l'oraison, il y a une manière plus passive encore dans l'oraison hein, que... Oui, mais si on médite, on peut laisser le Seigneur nous parler aussi. Mais c'est vrai que l'oraison, on est plus réceptif en quelque sorte, on est plus dans cette dimension de réceptivité. Oh, alors après, on va faire de la publicité. Ah, très bien. Oh là, je regarderai ça tout à l'heure. Bon, mais après, donc, ça peut être à partir d'une page de l'écriture, ça peut être exercer simplement votre foi, votre espérance, votre charité. Je ne sais pas si vous connaissez votre acte de foi, d'espérance, de charité, ça peut être bien de le savoir. Mais ça peut être aussi sous une forme d'adoration, louange. Après, il y a mille manières hein, d'être pendant ce temps d'oraison. Et puis donc, ça c'était le corps de l'oraison et la conclusion de l'oraison. Alors souvent, les auteurs spirituels disent, ben, maintenant c'est bien de passer à la pratique. Vous étiez au septième ciel, mais comment ça va se traduire dans votre vie concrète? Qu'est-ce qui va ressortir de ce temps d'oraison? Alors là, je reviens au mystère du chapelet. Dans le mystère du chapelet, on contemple le mystère, mais après, il y a un fruit du mystère. C'est une vertu, c'est une disposition. C'est le mystère qui se traduit dans notre vie, en quelque sorte. Mais dans l'oraison, on pourrait dire qu'il y a quelque chose d'un peu analogue. À la conclusion, quel est le petit pas aujourd'hui que je vais faire pour aller dans le sens du temps d'oraison que j'ai vécu? Ça, c'est la conclusion de l'oraison. Certains concluent leur oraison en prenant leur agenda et en présentant au Seigneur les gens qu'ils vont rencontrer ou les situations qu'ils auront à aborder pendant la journée et lui confier. Après, certains parlent de François de Sales parlait du bouquet spirituel. Bouquet spirituel, ça peut être un verset qui m'a parlé pendant ce temps d'oraison, un verset, une pensée. Ben, je repars avec pour que ça vienne nourrir ma journée, Voilà. Et puis on conclut tranquillement en remerciant le bon Dieu de nous avoir accordé ce temps. Alors nous, on lui a donné, mais lui était là aussi. Donc, en lui demandant sa grâce. Et du coup, après l'intériorité, comme je disais au point de départ, là c'est la conclusion, n'a pas son but en elle-même, c'est au service d'une relation plus profonde avec Dieu. On pourrait prendre l'image de votre vie conjugale. Les temps d'intimité, c'est aussi pour, après avoir, ça se traduit dans le reste de votre vie aussi. Et je pense que, oui, on pourrait dire l'intériorité, l'intimité avec Dieu, voilà, c'est... Je reviens à Saint François de Sales. Saint François de Sales n'était pas du tout du genre de ceux qui voulaient transformer les gens de l'extérieur pour qu'ils adoptent une conduite, mais un peu extérieure. Lui, il voulait que ça parte du cœur. Et c'est pour ça que Saint François de Sales était aussi attaché à l'oraison, parce que c'est là que... On sent que le Seigneur nous appelle dans telle ou telle direction et après, donc, on essaie d'ajuster notre vie. Mais ça ne part pas de l'extérieur, ça part de l'intérieur. Cette intériorité, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet paradoxalement d'être plus naturel. Naturel à bien entendre dans le sens où on est vraiment soi-même. L'intériorité, justement, on ne joue pas un personnage, et puis l'intériorité, c'est d'être, d'abord, de se retrouver vraiment devant Dieu, et après, dans la vie de tous les jours, d'être vraiment ce qu'on est, et de ne pas avoir peur d'être ce qu'on est. Et je pense que ça, c'est une vraie grâce de l'intériorité. Il y en a qui disent on est aligné, ou on est, enfin, peu importe la manière, le vocabulaire qui est employé, mais je crois qu'il y a quelque chose de ça, une cohérence avec ce qu'on est profondément. Voilà, et je crois que ça, c'est un vrai fruit de l'intériorité, d'être vraiment soi-même, dans le meilleur de ce qu'on est.